Qu'est-ce que Noël nous évoque? Qu'est-ce que Noël nous rappelle? Pourquoi certains détestent Noël? Pourquoi d'autres l'attendent toute l'année? Noël nous met face à nos familles, des familles que l'on ne choisit pas. Noël nous met face à l'argent, à la réussite, à la remise en question. Noël clôture une année, il est morose pour l'un, réjouissant pour l'autre. Et pourquoi Noël? Et pour certains un fardeau émotionnel, et pour d'autres un cadeau. Noël rassemble autant qu'il fracture. Et si ce que l'on ressentait en décembre ne nous appartenait pas entièrement? Ici Lisa, pour la chronique « Être au bien » de la Radio Girafe. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche tous de près ou de loin. Noël, Christmas, Natale. Alors c'est parti, je vous souhaite déjà à toutes et à tous un joyeux Noël. Si vous vous baladez dans le catalogue des films de Noël sur Netflix, vous verrez toujours les mêmes types de scénarios. Une fille en couple avec un mec qu'elle n'apprécie pas tant que ça, mais qui répond à tous les codes du gendre parfait. Élégant, carré, professionnel, et souvent il bosse dans la finance. Il s'entend généralement super bien avec le père de la fille, la mère l'adore, mais malheureusement, il ne la rend pas heureuse. Pourquoi? Car il est rigide, il manque de légèreté, il aime pas rire, ni manger des gâteaux trop gras, et faire des bonhommes de neige. À côté de ce film-là, généralement, il y a un autre film, avec un mec plutôt brun, grand, musclé, ténébreux, avec une chemise de bûcheron. Sa femme est décédée et il lui a fait la promesse qu'il n'aimerait jamais personne d'autre qu'elle. Jusqu'au jour où une New-Yorkaise qui n'a jamais vu la campagne de sa vie débarque pour racheter son champ. Dernier scénario, celui de la plus jeune fille de la famille qui répond à tous les codes de la génération millennials. Elle est célibataire à chaque Noël, elle se prend des questions assassines du type « Mais pourquoi est-ce que t'es toujours seule ?» Bon, l'horloge biologique devrait pas tarder là, hein. C'est dingue quand même, t'es si mignonne. Mais en fait, ce que personne n'a compris dans cette famille, c'est que elle rêve que d'une chose, c'est un amour aussi exceptionnel que celui de ses parents. C'est ça qu'elle projette, au point qu'elle n'offre aucune chance à personne, car au premier abord, personne ne semble être à la hauteur et n'a les merveilleuses qualités et honorables qualités de son papa chéri. Mais ça, personne ne l'a compris dans sa famille. Bref, je caricature complètement, j'irais même jusqu'à dire que je fais de la psychologie de comptoir, mais si je cite ces films de Noël, c'est pas parce que c'est des clichés, mais c'est parce que ce sont surtout des clichés, des stéréotypes qui ne viennent pas de nulle part, et finalement ils sont parfois terriblement réalistes. Car dans les films de Noël, il y a aussi le tonton qui boit trop et qui fait chier tout le monde, il y a aussi ta cousine Bernadette que tout le monde prend pour une délurée, car finalement elle a décidé de vivre différemment et surtout de vivre libre. Il y a les gosses ingérables à qui on peut rien dire au risque de créer un conflit familial. Bref, Noël, que ce soit dans les films ou dans la réalité, c'est parfois une cascade de non-dits, d'agacements, de gens qui prennent sur eux et qui se réunissent juste parce que, bah, c'est la tradition. Mais Noël, c'est aussi le moment où nos parents font tout pour nous rendre heureux, où on rigole avec nos cousins qu'on n'a pas vus depuis 2 siècles, qu'on ne verra pas pendant les 2 prochains siècles. Noël, c'est aussi le moment où certains attendent pour manger des kilos de nourriture sans que personne les regarde, car tout le monde fait pareil. Noël, c'est aussi triste que beau, c'est aussi conflictuel, mais c'est surtout révélateur. Noël, c'est un espace hautement symbolique où chacun réendosse, parfois malgré lui, un rôle familial. Pourquoi décembre active particulièrement ces dynamiques? La fin d'année, la charge émotionnelle, l'obligation sociale, la tradition. Pour mieux comprendre ce rapport à Noël, je suis venue vous demander qu'est-ce que Noël vous évoque? À quoi vous ramène cette période? Qu'est-ce qui se passe chez vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos familles? Racontez-moi.
Bah parce qu'en fait, je trouve que c'est toujours été, quand j'étais petite, un moment important, fédérateur au niveau familial. Et puis ma mère, on allait voir les décorations de Noël à Paris. Enfin, tu vois, ma mère systématiquement m'emmenait quand j'étais petite à Noël. Moi, j'ai fait pareil avec mes enfants. Donc, oui, ce côté un peu magique, émerveillement.
C'est aussi le moment de l'année où je me pose pour réfléchir à ce qui s'est passé, ce que j'ai appris durant l'année, ce que j'ai parfois perdu aussi. Et surtout, ce que je veux pour l'année prochaine.
Après les fêtes de Noël, malheureusement, chaque année, depuis quelque temps, y a une personne en moins. Et ça, bien évidemment, ça me fait beaucoup de peine. C'est pour ça qu'un jour, j'aimerais passer Noël dans un autre lieu que Le Havre, ou dans un autre lieu que tous ceux que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui, parce que ça remémore des souvenirs joyeux, mais aussi douloureux, du fait que les personnes parties ne soient plus avec moi, avec nous. Voilà.
De la nostalgie, oui, parce que comme je te le disais, en fait, ma mère était vraiment fédératrice à l'époque. C'était la clé de voûte familiale. Et en fait, elle préparait tout. Alors, le repas de Noël, des mois à l'avance, elle imaginait ce qu'elle allait faire pour Noël, la table, les garnitures, le sapin et autres. Et c'est vrai que depuis que ma mère est décédée, je dois dire, ça s'est délité, forcément. Et mon père n'a pas tellement perduré la tradition. Bon, après... Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai quand même une certaine nostalgie. Et mes enfants qui ont connu, surtout mon aîné qui a connu sa grand-mère, c'est vrai qu'elle est très, très nostalgique de cette période parce que ça lui évoque tellement des souvenirs marquants, puis en même temps qui ont été riches pour elle. Quoi. C'est vrai que du coup, on est un peu nostalgique. Il y a un côté, alors on aime bien Noël, moi j'aime quand même bien Noël, mais il y a un côté nostalgique.
Pour ma part, je dirais que les fêtes de fin d'année ont un peu un goût doux amer. C'est-à-dire que c'est à la fois un moment de réunion connu depuis l'enfance, où la famille donc se retrouve et l'on peut vivre des moments joyeux, et à la fois un moment contraint, c'est-à-dire que c'est presque une obligation sociale qu'on s'impose, qui parfois... est imposé alors même que des tensions existent dans la famille. Autrement dit, ce sont des moments qui peuvent aussi susciter de l'appréhension, du stress, si l'on considère que toutes les familles ne sont pas parfaites, unies. Et donc voilà, ça, c'est un peu un sentiment partagé. Je rajouterai par ailleurs mes choses plus, on va dire, peut-être conventionnelles, partagées par tous. C'est le point de vue commercial lié à cette fête. C'est-à-dire que il est convenu que des cadeaux soient offerts. Et qui dit cadeau dit un peu, il faut le dire, charge mentale pour anticiper ses préparatifs, avec le préparatif bien sûr de... préparer la tablée, inviter les uns et les autres, les accueillir.
Mais alors sinon, c'était vrai qu'à Noël, c'était très souvent les règlements de compte, parce que dès l'instant où on a un petit peu bu, c'était... alors surtout au niveau politique, moi j'ai souvenir que mon père, avec un de ses cousins, où ils étaient vraiment de tendance complètement divergente, à chaque fois, forcément, on arrivait au clash en fin de repas parce que c'était l'instant où on commençait un peu à se lâcher.
La question que j'ai envie de me poser pour cet épisode, c'est: sommes-nous vraiment nous-mêmes à Noël ? Ou jouons-nous des rôles hérités de notre histoire familiale ? Noël agit comme un miroir. Il réveille des joies immenses, mais aussi des blessures que l'on croyait endormies. Pour certains, c'est un refuge affectif et pour d'autres, une épreuve où on se croise solitude, pression sociale, comparaison, argent et attente familiale. Parce qu'il clôt une année, il amplifie tout. Le manque, l'amour, l'échec, comme l'espérance. Mais décembre ne fait pas que remuer notre histoire. Il ravive aussi celle d'avant nous. Les fêtes perdues, les familles éclatées, les silences, les deuils, les loyautés invisibles. Et si, en fin d'année, une part de nos émotions venait de l'héritage que l'on porte sans le savoir ? Dans cet épisode, j'ai décidé de parler de psychogénéalogie et d'épigénétique. D'une psychogénéalogie à l'odeur de feu de bois, de bûches en chocolat, de fromage et de viande bien cuite. Noël, cette période où les gens prennent et reprennent rendez-vous chez leur psychologue, qu'est-ce que ça dit de nous ? Par peur, par stress, parfois aussi par question de place, d'exclusion, ou d'argent, ou juste d'organisation. Pour commencer, quels sont nos rôles familiaux ? Pour donner un exemple hyper concret, qui est lié de près ou de loin à cette idée de rôle modèle, il y a la fameuse expression anglaise « holiday regression ». Dans un article pour The Guardian, Olivier Beckerman définit cette expression de la manière suivante. C'est un trou noir féroce qui aspire les enfants adultes et leurs parents dans des rôles familiaux d'il y a des années, voire des décennies, au moment où ils sont réunis sous le même toit. En psychologie, quand on parle de holiday regression, c'est le fait qu'au moment des fêtes, en retournant dans nos familles, nous régressons émotionnellement. Concrètement, on se sent à nouveau petit, maladroit, à cran ou en demande. On réagit parfois de façon disproportionnée. On retrouve des émotions que l'on croyait dépassées, comme la jalousie, la rivalité, la colère ou encore le besoin de reconnaissance. Et parfois, aussi, on se laisse vivre. D'un côté, on se comporte comme un ado, et de l'autre, on est traité comme un ado.
Alors, Valérie, donc, effectivement, je suis donc une hypnothérapeute.
D'accord.
Hein, qui a vraiment, c'est vraiment donc mon dada, hein, c'est vraiment ma spécialité, l'hypnose. Avec une spécialisation en fait au niveau de la gestion des émotions.
D'accord.
Et donc une spécialisation aussi sur la régression.
La régression, d'accord.
Voilà. Donc pour emmener effectivement dans l'enfance, petite enfance, voire intra-utérin.
Intéressant. D'accord.
Intéressant. Hein, pour justement aller voir ou aller ressentir, pardon, parce que quand on est intra-utérin, hein, c'est d'aller ressentir en fait des émotions, l'émotion effectivement de l'entourage, c'est-à-dire est-ce qu'on est attendu, est-ce que effectivement on a envie en fait de naître, est-ce qu'il y a déjà en fait des réticences à pouvoir arriver dans ce monde matériel.
D'accord. Comment vous définiriez la régression, qui est la thématique sur laquelle vous travaillez particulièrement ?
La régression, en fait, c'est le fait simplement de rajeunir,
hein,
et c'est le fait effectivement d'aller retrouver des moments qui ont pu avoir un impact sur ce que l'on est maintenant adulte.
D'accord, donc Noël peut être un moment parfaitement lié à cette fameuse régression, je pense.
Tout à fait.
Et en
tout
plus...
à fait, parce que c'est vrai que Noël, en fait, ce sont des fêtes familiales, d'accord, où chaque famille donc se réunit pour fêter cet événement. Et donc, quand la famille en fait se réunit pour fêter cet événement, en fait, chacun reprend sa place.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme psychique normal. Cette fameuse régression, elle n'est pas née en Angleterre il y a 5 ans. C'est notre bon vieux Sigmund Freud qui l'a évoqué en premier. Freud définit la régression comme un retour temporaire à des modes de fonctionnement plus anciens de la psyché, souvent activés par le stress, la charge émotionnelle, les situations symboliquement fortes. Et Noël, de par son symbole et sa tradition, coche toutes les cases. Retour dans la famille, dans la maison familiale, au milieu des figures parentales, des souvenirs d'enfance, et souvent il y a des attentes implicites, et aussi notre fameux idéal de famille heureuse. Le cerveau ne fait pas la différence entre souvenirs et situations réelles, donc il réactive les circuits émotionnels de l'enfance. Résultat, même quand on est adulte, autonome, construit, on redevient l'enfant d'eux. Noël est un décor psychique puissant pour les fantasmes, les rêves, les idéaux, les projets. Et d'un point de vue symbolique, Noël, c'est donc la table familiale, les mêmes plats, les mêmes phrases et parfois même les mêmes places autour de la table. Or, en psychologie familiale et systémique, le décor réactive le rôle. On ne revient pas seulement voir sa famille, on revient dans un système. Et dans ce système, chacun a une place. Il peut y avoir le médiateur, le responsable, le discret, le provocateur, celui qu'on critique, celui qu'on protège, celui qu'on juge. Même si dans la vie quotidienne, tout le monde a changé, et à Noël, ou dans d'autres fêtes de famille, tout le monde reprend sa place. Pour parler de ce sujet, j'ai décidé d'interviewer le psychologue et auteur Xavier Mathieu. Je le laisse se présenter.
Ouais, je m'appelle Xavier Mathieu, je suis psychologue. Je travaille à la fois en institution libérale, je travaille dans le service public, dans la psychiatrie de secteur, dans la thérapie familiale aussi, dans le trauma. Et puis j'ai une activité de formation, de supervision, de thérapie individuelle aussi, de groupe. Je fais plein de petites choses qui se recoupent. Et Noël, pour les psys, c'est un truc un peu fou, quoi. Parce que d'abord, on parle que de... Enfin, c'est un sujet récurrent autour de Noël. Okay. Avant, pendant et après. Et puis, c'est ma porte d'entrée, en fait. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire aux patients, juste, allez-y, regardez. Parce que Noël, c'était un peu ça l'idée de départ, c'est une sorte de photo du système familial qui est extrêmement précieuse, si on peut la regarder avec un tout petit peu de distance, à nouveau parce que en partie, on se retrouve à des places qu'on connaît très bien. Qu'on ait un Noël familial ou qu'on n'en ait pas, du coup, on se réfère à une norme. Donc, parfois, on est dans la norme, parfois, on est à l'extérieur, et ça crée des choses aussi. Le décalage crée des choses. Et puis, parce que, justement, la dynamique familiale se réveille autour de Noël, dès la préparation. Où est-ce qu'on va le faire, avec qui vient, qui vient pas, qui organise pas, qui est d'accord, qui est pas d'accord, les angoisses éventuellement qui montent si jamais il y a des tensions, ou une appréhension positive si c'est un moment chouette. Ça commence bien avant. On pourrait dire tout événement familial réveille la dynamique familiale et on est une sorte de photo dynamique. Mais Noël, c'est un peu la fête de famille par excellence. C'est-à-dire, même dans des familles où on se voit peu, s'il y en a qu'une, c'est celle-là. Et elle est très reliée à la dynamique familiale puisqu'elle est issue de tout un historique dans la durée qui part de l'enfance. Donc elle est vraiment... elle est particulièrement familiale comme fête Noël. Même si on fête un anniversaire, si on va à un enterrement, etc., les dynamiques familiales sont là. Mais Noël, c'est qu'il y a une sorte d'injonction à la famille. L'image d'Épinal de Noël à laquelle on se colle, c'est celle-là. C'est celle de la famille heureuse, réunie, la générosité, le plaisir, etc.
C'est vrai.
C'est pas toujours le cas. Mais du coup, c'est vraiment une image de la famille. On a des rôles dans nos familles. En fait, c'est quand même là qu'on... Enfin, la famille nous définit énormément. Elle ne nous enferme pas au sens où on peut gagner de la souplesse là-dedans. C'est souvent ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs. Les cheminements adultes sont des cheminements, en général, c'est comme s'il y avait deux opposés. Soit on est un objet de la famille au sens de la place et de l'identité qu'on y a eu, soit on est en rupture et on essaie de trouver un truc au milieu, en général, dans nos vies d'adultes, qui est de rester en lien sans être complètement défini par la famille. Mais la famille nous a coloré énormément. C'est là qu'on a appris les relations. C'est un monde, la famille. Et pendant longtemps, c'est un monde complet, presque hermétique. Et tout est là. Et donc, à la fois notre identité, parce qu'on s'est construit sur ce qu'on disait de nous, et à la fois notre place, notre rôle, s'est construit là. Donc, évidemment que cette chose-là a perduré avec les tentatives qu'on fait de s'en éloigner ou de s'y conformer. Mais quand on essaie de faire tout le contraire, on est tout aussi lié que quand on essaie de faire tout pareil. Enfin, y a vraiment, c'est extrêmement corrélé à notre identité, la famille.
La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces rôles se sont construits? Eh bien, ils se sont construits pour maintenir l'équilibre familial, parfois pour survivre à un conflit, un deuil ou un secret, souvent très tôt dans l'enfance. Ce sont des rôles qui sont inconscients, mais profondément ancrés. Et à Noël, lorsque la famille est réunie, que la charge émotionnelle est maximale, que l'injonction à être heureux ensemble est forte, eh bien le psychisme, il choisit alors, ce qu'il reconnaît le mieux, nos anciens schémas. Ce n'est pas que nous ne savons pas faire autrement, c'est que le système nous y ramène. Pour cet épisode, j'ai vraiment eu envie de faire intervenir un maximum de professionnels, donc j'ai invité Xavier Mathieu, que vous avez déjà entendu, mais également la psychogénéalogiste Dominique Jacob, qui est très reconnue dans le domaine de la psychogénéalogie.
Alors, il faut savoir que je suis une vieille routière, comme on dit. J'ai commencé à m'intéresser à la psychogénéalogie il y a bientôt un peu plus de 40 ans maintenant. Il faut savoir que j'ai commencé par un traumatisme. C'était à la suite du décès de mon père soudain que je me suis posé beaucoup de questions existentielles et spirituelles, et c'est ce qui fait que j'ai fait cette approche. Quelques années plus tard, je me suis aussi intéressée au décodage biologique, qui est la compréhension des maladies à travers l'histoire familiale, à ceci avec l'outil de Claude Sabat et de Bert Hellinger pour les constellations familiales. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose que je souhaite préciser. Je suis psychothérapeute, certes, mais je suis aussi dans une dimension spirituelle. Et mon travail est également mis sous l'égide de ce que j'appelle pour moi les guides et les maîtres spirituels. La période de Noël n'est pas seulement une fête. Elle est aussi un moment symbolique qui est très chargé et qui réveille des éléments d'un passé familial conscient ou inconscient, les trois quarts du temps plutôt inconscient, d'accord. Et donc, il y a des notions très particulières pour cela. Donc, en fait, il y a d'abord ce qu'on peut appeler les traditions. Mmh. Parce que les traditions qui ravivent l'histoire familiale. Hein, les rituels, les repas, les chansons, les prières. Mmh. Alors, bien sûr, Noël n'est pas qu'une fête religieuse. Elle est essentiellement une fête religieuse. Mais les mêmes histoires transgénérationnelles, chez des personnes qui ne sont pas religieuses du tout, ont la même approche par rapport à ces rituels. Ça pourrait être, par exemple, la réactivation de souvenirs d'enfance, de modèles familiaux, d'attentes et de rôles transmis. Hein. Oui. Par exemple, chaque enfant a un rôle spécifique. Ça pourrait être l'organisateur, le médiateur, le soignant, ou bien d'autres rôles encore. Donc, en fait, Noël devient un espace où se rejouent des schémas hérités et qui sont souvent des schémas, bien sûr, pour beaucoup, heureux, mais dans certains cas, qui sont des schémas toxiques et douloureux et qui n'ont pas été réglés.
Vous l'avez déjà entendu au début du podcast pour parler de la régression par rapport à l'expression de holiday regression. Et désormais, j'aimerais que Valérie Schmitt, hypnothérapeute et psychogénéalogiste au Havre, nous partage sa vision des rôles familiaux.
Chaque enfant, chaque membre de la famille a son rôle bien spécifique.
D'accord.
Et réellement, c'est son vrai rôle.
Est-ce que vous avez des exemples de rôles qui existent dans les familles, des rôles qui reviennent souvent ou des choses que vous avez pu rencontrer?
En fait, la principale thématique avec laquelle je travaille avec les clients, en fait, c'est justement leur place dans la fratrie.
D'accord.
Le premier-né ne va pas avoir le même rôle que le deuxième, qui ne va pas avoir le même rôle que le troisième.
D'accord.
D'accord. En prenant bien en compte, effectivement, tout ce qui a été aussi fausse couche et avortement.
Est-ce que le rôle dans la fratrie est spécifique à chaque famille ou alors c'est des règles qui se...
Non, non. Le rôle dans la fratrie, en fait, est, je dirais, général. Ouais, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les familles.
Okay.
Si vous êtes un premier-né et réellement un premier-né, en fait, vous allez avoir un rôle particulier. Si vous êtes un deuxième et réellement un deuxième, si entre deux, il n'y a pas eu de fausse couche ou d'avortement, effectivement, il y aura un autre rôle.
C'est intéressant.
Voilà. Okay. Et donc, effectivement, le troisième, si réellement est un troisième, s'il n'y a pas eu de fausse couche et d'avortement, eh bien, aura un autre rôle.
Okay.
Effectivement. Et chacun vient amener quelque chose de particulier dans la famille pour pouvoir, en fait, à un moment donné, modifier la famille ou bien réparer des choses dans la famille ou bien perdurer quelque chose.
D'accord. Et si l'un des... Si... Est-ce que c'est possible qu'on ait un rôle et que ce rôle, au fur et à mesure de l'histoire de notre famille, change?
Bien sûr. Alors... Il peut se modifier ce rôle à partir du moment où vous avez réellement votre place.
Ça vient aussi à se demander, pourquoi est-ce que je redeviens comme avant alors que j'ai changé? Eh bien parce qu'en fait, la famille, elle nous renvoie à une image ancienne de nous-mêmes. Les interactions ne tiennent pas toujours compte de qui nous sommes devenus, et inconsciemment, chacun attend que l'autre reste à sa place. Et changer un rôle... Un rôle qui a toujours été, c'est risquer de déstabiliser l'équilibre, de créer du conflit et de réveiller aussi parfois des tensions enfouies.
Comment, coquine ? Si je suis malade ?
Allez, monsieur, on voit bien que vous n'êtes pas accoutumé à parler à des visages.
En fait, individuellement, on a à faire une sorte de deal entre justement notre volonté de faire bouger les choses et notre capacité à faire avec. Alors, il y a des extrêmes dans lesquels il y a de la violence, de la négligence, et à ce moment-là, faire bouger les choses, c'est se donner suffisamment de valeur pour ne plus y aller.
Ouais.
Mais quand c'est pas le cas, ben, il y a justement tout un travail de positionnement individuel qui consiste à dire, bah tiens, moi, par exemple, cette position-là, elle me va pas. Comment on va faire? C'est-à-dire, je peux passer mon temps à rentrer en combat là-dessus et qu'il se passe rien, ou je peux complètement accepter les choses telles qu'elles sont et me résigner et un peu disparaître là, ou je peux faire tout un travail de positionnement pour remettre le lien au milieu en disant, ben voilà, moi, ce truc-là, il me pose problème, j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que je dois comprendre si ça bouge pas? C'est-à-dire, est-ce que ma parole est pas importante? Est-ce que je suis, si je prends votre exemple, mais je sais pas de quoi vous parlez, mais est-ce que je suis une mauvaise fille si je suis pas d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Ok. D'accord. Et
puis je pense aussi, excusez-moi, qu'il y a à voir dans quelle mesure on a à l'intérieur une envie de conformité aussi. C'est-à-dire souvent on est pris soi-même entre l'envie de conformité et l'envie de positionnement. C'est un arbitrage interne. L'autre n'existe pas là-dedans. Il n'y a que moi qui dois arbitrer dans est-ce que je préfère être affilié, même avec ça a un coût, ou est-ce que je préfère me positionner et que ça ait un coût.
Ok.
Souvent, on se conforme. Et souvent, on se conforme même à contre-cœur. Cette régression, ce n'est ni un échec, ce n'est ni une pathologie, souvent c'est un signal. Cette holiday regression ou Christmas regression, eh ben c'est un signal qui nous montre qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, qu'il y a des choses qui se transmettent. Et ce sont des choses aussi qui demandent encore à être conscientisées. Et c'est là que la psychogénéalogie, l'épigénétique et le travail thérapeutique prennent tout leur sens. Noël, c'est pas seulement une fête, comme je l'ai dit au début, c'est un révélateur. Pour revenir sur la notion de rôle familial, ce n'est pas un trait de caractère qui est figé, ni une identité profonde. C'est vraiment une fonction psychique, qui est souvent inconsciente, et qu'on adopte très tôt pour que la famille tienne. Dans beaucoup de familles, chacun finit par incarner une place bien identifiable. On l'a déjà dit tout à l'heure, va y avoir celui qui apaise, ou celui qui fait rire, celui ou celle qui gère tout, celui qui s'efface, qui dérange, qui protège, celui qui porte les tensions. Et en fait, ces rôles, c'est vraiment des réponses adaptatives à l'environnement émotionnel dans lequel on grandit. Et en fait, pourquoi une famille, elle a besoin que chacun tienne une place? Et bien en fait, une famille, ça fonctionne comme un système vivant. Quand quelque chose menace son équilibre, ça peut être un deuil, un secret, une violence, une maladie, une rupture, une précarité, et bien le système, il doit s'organiser pour survivre. Et cette survie, elle passe souvent par la répartition inconsciente des rôles. Quelqu'un rassure quand personne ne peut le faire. Quelqu'un prend sur lui quand les adultes vacillent. Quelqu'un détourne l'attention quand la douleur est trop forte. Quelqu'un devient le problème pour éviter que le vrai problème soit nommé.
Et pareil, toujours dans les familles, est-ce que dans ces situations qui se passent dans les familles, dans ces rôles que les gens prennent, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on observe parfois des choses qui sont héritées de d'autres générations, comme on peut en entendre parler parfois en psychogénéalogie ou en épigénétique, où des situations se répètent d'année en année, des rôles sont les mêmes, enfin on prend des rôles qui sont pas forcément les nôtres. Est-ce que vous auriez des choses à me partager par rapport à ça?
En fait, je crois qu'il y a un peu deux manières de regarder ça. En psychogénéalogie, la plupart du temps, ce qui est pas ma grille de lecture, il y a l'idée d'un inconscient familial à l'œuvre qui ferait qu'il y aurait des répétitions sans qu'on puisse en connaître vraiment la nature. C'est-à-dire, on constaterait des dates anniversaires, des rôles hérités, etc. Moi, je crois plutôt, même si je nie pas ça comme possibilité, à des réactions. C'est-à-dire, quand on fait une histoire familiale, on peut voir que ce qui s'est joué dans la génération au-dessus a eu un impact en réaction auprès de la génération de nos parents, qui eux-mêmes ont eu une action en fonction de ça. Je peux vous prendre un exemple tout simple. Les dynamiques de violence ou de raideur masculine, par exemple, elles s'héritent naturellement tant qu'il n'y en a pas un qui est OK pour traverser l'émotion qui va avec, puisque si mon père à la fois me transmet l'idée que pour être un homme, il faut que je sois pas vulnérable et fragile, et qu'en plus, il a une action agressive contre moi, évidemment que je vais à la fois me blinder pour pas ressentir ce qui me fait vivre, et puis essayer de lui correspondre en devenant un homme du même genre. Donc, il y a une sorte de répétition qui serait comme ça.
Qui est plus de l'ordre de la réaction, en fait.
En fait, on... dans une famille, ce qui se passe énormément, ce qui crée notre identité, c'est la question de l'amour. Mmh. C'est l'idée de comment je fais pour obtenir de l'amour.
Ouais.
J'ai des stratégies pour ça, essayer de correspondre aux attentes des parents, et comment je réagis au fait que j'en ai pas totalement. Avec de la raideur, de la fuite, de la rébellion, etc. Okay. Et donc ce mélange-là de comment j'ai réagi à mes parents qui eux-mêmes ont réagi à leurs parents, etc., va créer tout un tas de choses face auxquelles je peux essayer d'être libre ou pas, ou je peux essayer d'en prendre conscience ou pas, etc., pour gagner plus ou moins en liberté, ça, ce qu'un travail psychologique permet.
J'aime beaucoup le point de vue de Xavier Mathieu sur le travail psychologique plutôt, qui est plus au niveau de la réaction que de l'histoire de la généalogie. Au final, le rôle, c'est pas une faiblesse, c'est une solution. C'est une solution qui est trouvée par l'enfant ou par la lignée pour maintenir un minimum de cohérence émotionnelle. Le rôle, c'est comme une protection, c'est une loyauté, c'est une mémoire. Et c'est ici que la psychogénéalogie prend tout son sens. Un rôle, ça peut être donc une protection, et la protection, ça va permettre d'éviter le conflit qui éclate, que la violence ressurgisse ou que la douleur déborde. Et un rôle, ça peut être aussi une loyauté invisible. Une loyauté invisible, c'est rester fidèle à une histoire familiale, à un ancêtre ou à une souffrance non reconnue. Et un rôle, ça peut être aussi une réponse à un traumatisme ancien, parfois antérieur à notre naissance. Donc dans certaines familles, on continue de tenir un rôle par fidélité à quelqu'un qui n'a jamais su le déposer. En général, on ne joue pas un rôle par hasard, on le joue par fidélité. Par fidélité à une histoire, à un silence, à une blessure transmise sans mots. Pour que vous compreniez vraiment concrètement ce que c'est la psychogénéalogie et quels sont ses enjeux, je laisse Dominique Jacob nous l'expliquer plus précisément.
Bien sûr. Alors, la psychogénéalogie est une approche qui relie bien sûr psychologie et généalogie. Alors, évidemment, on ne va pas forcément travailler ou investiguer uniquement à travers l'histoire, mais bien sûr, l'histoire a un grand impact sur l'histoire de la famille à proprement parler. Donc, la psychogénéalogie va permettre de comprendre quels sont les liens que nous avons avec notre famille. Et il faut savoir que les petits-enfants, c'est-à-dire les descendants, sont reliés d'une manière ou d'une autre par leur prénom, leur date et leur place dans la fratrie. Cela veut dire que chaque enfant qui va naître est en quelque sorte missionné pour régler les schémas douloureux qui n'ont pas été, et les blessures douloureuses qui n'ont pas été réglées en amont.
D'accord. Est-ce que vous auriez un exemple ? Parce que pour des gens qui ne connaissent pas la psychogénéalogie, ça peut paraître un peu particulier. Comment, en fait, on peut hériter d'une souffrance passée d'un de nos ancêtres ?
Pourquoi ? Oui.
Est-ce que vous pouvez me donner un petit exemple pour clarifier pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça ?
Bien sûr. Alors, en fait, cela fonctionne suivant la notion de inconscient collectif.
Alors, juste pour vous définir l'inconscient collectif, c'est un concept qui a été créé par Carl Gustav Jung, qui est le fondateur de la psychologie analytique, pour désigner un imaginaire commun aux membres d'un même groupe social. Et pour rappeler, en psychologie, l'inconscient, c'est l'ensemble des phénomènes psychiques qui échappent à notre conscience, donc ce sont les instincts, les pulsions refoulées, les préjugés, les automatismes, les règles intériorisées, la morale. Et en gros, l'inconscient ne connaît ni l'analyse, ni la réflexion, car il est totalement spontané et impulsif. Je rends le micro à Dominique.
On a un inconscient collectif familial, mais aussi un inconscient collectif en général, dans la vie. On ne rencontre pas n'importe quelle personne. C'est la même chose en généalogie. Chaque enfant, donc, raconte une histoire. Moi, par exemple, je vais vous donner l'histoire de ma famille. D'accord. Je m'appelle donc Dominique, mais mon père s'appelle Bernard, une sœur de lait s'appelle Brigitte, et déjà, de par ces prénoms-là, ça me raconte qu'il y a eu des pertes de biens, des pertes de maisons. Or, en ce qui me concerne, étant thérapeute et cherchant un lieu de vie, j'avais voulu trouver un lieu qui était très abordable, un château. Et j'ai perdu ce château car, à l'époque, je ne savais pas que j'étais reliée à un arrière-grand-oncle qui lui-même avait un château et qu'il l'avait perdu pour avoir donné tout son argent aux gens en difficulté. Donc, je portais donc cette mémoire et je n'ai donc pas pu aboutir à l'époque à avoir ce lieu. J'étais donc dans une mémoire.
Mais en fait, la psychogénéalogie, elle a été étudiée, elle a été scientifiquement étudiée, et c'est pour ça que maintenant, on peut parler d'épigénétique, qui est la preuve que les traumatismes ou l'histoire des ancêtres peut s'inscrire dans nos gènes. Donc pour vous expliquer un petit peu ça plus clairement, alors revenons sur Noël. Noël, avec ses traditions, ses retrouvailles, s'agit comme un révélateur, puissant des histoires familiales et des mémoires familiales. Ce que nous percevons comme des réactions émotionnelles ou des habitudes, c'est pas toujours uniquement psychologique. Notre corps, lui aussi, il s'en souvient. Et l'épigénétique, c'est la science qui étudie comment notre environnement et nos expériences peuvent modifier l'expression de nos gènes sans changer notre ADN. Stress, traumatisme, privation, violence ou même événements vécus par nos ancêtres peuvent laisser des traces biologiques transmissibles de génération en génération. N'est-ce pas incroyable? Franchement. Et ces traces, elles influencent notre sensibilité au stress, notre régulation émotionnelle et notre santé physique et mentale. La psychogénéalogie, ça nous montre comment certaines dynamiques et rôles familiaux se répètent d'une génération à l'autre. L'épigénétique vient confirmer que ces répétitions ne sont pas que symboliques. Elles peuvent s'incarner dans notre biologie. Par exemple, des traumatismes anciens peuvent modifier la réponse du système nerveux, du cortisol ou d'autres marqueurs de stress, rendant certaines émotions plus vives, plus difficiles à réguler, et en particulier lors des périodes chargées émotionnellement comme Noël. Le lien entre psychogénéalogie et épigénétique nous offre une lecture plus complète, et c'est ce que nous ressentons aujourd'hui, stress, colère, joie intense, nostalgie, et ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est parfois une mémoire vivante qui est inscrite dans notre corps, héritée de notre histoire familiale, qui se manifeste dans nos interactions et nos comportements à Noël ou le reste de l'année. Bon, moi j'ai décidé de parler de Noël, mais le transgénérationnel, ça se joue tout le temps, ça se joue même aux anniversaires ou dans votre quotidien. Et en fait, l'idée clé, c'est de comprendre que notre corps peut porter vraiment l'histoire de nos ancêtres et ça permet de replacer nos émotions dans un cadre plus large.
Donc, la psychogénéalogie, c'est plus quelque chose qu'on travaille à partir du moment où on prend conscience.
C'est ça. C'est une recherche, en fait. C'est vraiment lorsque vous entrez en fait dans le monde de la psychogénéalogie, vous rentrez dans le monde de Sherlock Holmes. Hein, c'est une enquête. C'est une enquête sur vos racines. C'est une enquête sur vos aïeuls. Qu'est-ce qui a pu se passer, en fait, dans la famille pour que, par exemple, il y ait des répétitions dans cette famille? Pour qu'à un moment donné, il y ait des dates d'anniversaire qui reviennent sans cesse. Là, j'ai eu dernièrement une dame où, effectivement, elle est née. Mmh. Elle est née. Hein, alors qu'elle découvre, en fait, que c'est la date de décès de sa grand-mère, de son arrière-grand-père et de son arrière-arrière-grand-père.
Wow. Voilà. C'est dingue, ça.
Donc, ta date de naissance, en fait, c'est la date de décès de trois aïeuls.
Ah, mais c'est particulier, quoi.
C'est ça. Donc, elle vient, en fait, redonner la vie par rapport, en fait, à tes décès qui ont très certainement été compliqués pour la famille.
Ah, c'est fou. OK.
D'accord? Ou alors, ce sont des répétitions, comme, par exemple, des enfants qui arrivent et qui, par exemple, sont illégitimes.
Oui. D'accord.
Vous voyez? Hein? Donc, en fait, c'est vraiment une vraie enquête, la psychogénéalogie. Alors, c'est une enquête qui prend quand on commence à rentrer dans ce genre d'activité.
Oui.
d'activité, parce qu'effectivement, on est en recherche en permanence. Hein, mmh. hein, donc, quand on commence à rentrer dans ce genre de recherche, eh bien, c'est vraiment une recherche de tout temps.
Ouais, de toute une vie, au final, presque.
C'est ça.
Si ces mémoires, elles s'inscrivent dans le corps, si elles traversent les générations, alors il y a une question qui s'impose. Que se passe-t-il quand elles ne trouvent pas d'espace pour être dites? À Noël, tout est réuni pour que ces héritages émotionnels refassent surface. La promiscuité, les attentes, la pression de faire famille et parfois l'impossibilité de fuir. Et c'est souvent là que surgissent des conflits complètement disproportionnés, des paroles violentes, des agressivités soudaines ou au contraire des silences lourds et glaçants. Dans certaines familles, de Noël devient vraiment un terrain miné. On marche sur des œufs, on évite certains sujets, on sait que ça peut exploser, quoi. Le fait d'éviter certains sujets, au-delà de certaines familles, je pense que c'est beaucoup de familles. Et tout ça, en fait, c'est pas un hasard. Quand une famille a traversé des traumatismes non digérés, des violences, des abus, des humiliations, des exclusions, des secrets, et ben ces mémoires, elles cherchent un exutoire. Elles s'expriment là où la tension est à son maximal, dans les moments censés être heureux.
Alors, je voulais juste rappeler quelque chose d'important aussi. Pendant les périodes de fête, il y a aussi ce qu'on appelle le rappel des absents.
Ah bah ça, c'est sûr.
Et ça, c'était effectivement quelque chose qui marque beaucoup la famille pendant les périodes de fête. Un décès, une séparation, une exclusion familiale. Et c'est très important parce que pour qu'un arbre soit équilibré et qu'il soit heureux, il faut qu'il ait des grandes racines et il faut qu'elles soient en équilibre. Mm. Or, lorsqu'il y a décès, séparation et exclusion, l'arbre, il est un petit peu de travers quand même, d'accord ?
Mm, bien sûr.
Donc, le groupe familial sent la place vide et ça réactive les douleurs anciennes et les traumatismes qui datent de générations antérieures. Donc, aussi quelque chose qui parle beaucoup pendant les périodes de fête et de Noël, c'est les cadeaux. Hein? Les ouais. cadeaux qui sont donnés, qui symbolisent des transmissions psychiques. Par exemple, okay. choisir, offrir, recevoir un cadeau porte une symbolique transgénérationnelle. Mmh. Et la symbolique, c'est la reconnaissance. Hein? Encore une fois, pourquoi moi je reçois juste un livre, alors que ma sœur va recevoir une bicyclette. Mm. Il y a aussi les mémoires transgénérationnelles et la symbolique par rapport aux réparations, aux dettes, aux compensations. Donc, le cadeau n'est pas juste un objet. Il transporte la mémoire. Mm. D'accord ? Voilà.
Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, justement, là, appréhende les fêtes de Noël ? Parce que peut-être il se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements, des choses qui doivent être travaillées, mais qu'on n'est pas encore dans la démarche de travailler. Qu'est-ce que vous pourriez partager à une personne qui est dans cette situation, qui prend conscience de choses, mais qui... on est là.
Alors, la première chose que je lui dirais félicitations, déjà. Mmh. Bravo à vous, hein, bravo en fait d'avoir à un moment donné mis le doigt sur quelque chose.
Oui.
Voilà. Et après, je lui dirais simplement aller vers maintenant trouver la bonne personne.
Ok.
Pour que cette personne puisse vous accompagner vraiment et donc pour que vous puissiez vous à un moment donné vous retrouver tel que mmh. vous êtes et non pas tel que vous. On veut que vous soyez.
Noël est un révélateur. Et dans ces moments, Noël révèle des violences parfois banalisées, des rapports de domination, des schémas où l'on protège l'agresseur au nom de la paix familiale. Et où l'on demande encore au même de se taire, d'encaisser et de faire semblant. La psychogénéalogie, elle nous apprend une chose essentielle. Ce qui n'est pas et qui n'a pas été réparé dans une génération se rejoue dans la ou les suivantes. Mais ce qui n'est pas réparé dans la famille au temps présent se rejoue aussi régulièrement. Et souvent, ce sont les plus sensibles, les plus lucides et les plus différents qui portent le poids de ces tensions.
Et du coup, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui va appréhender Noël, mais qui considère qu'il n'a pas le choix que de fêter Noël? Parce que ça arrive, je pense, assez régulièrement aussi.
Ouais, j'ai deux choses qui me viennent quand vous dites ça. La première, c'est que on peut peut-être se prendre là où on en est. C'est-à-dire, la plupart du temps, nos réactions difficiles, douloureuses dans les situations, on les refuse.
Ouais.
On voudrait que ce soit facile, on voudrait être différent, on voudrait que la réalité soit différente, on voudrait ne pas être impacté, on voudrait ne pas avoir peur, ne pas se mettre en colère, etc. Mais si on regarde comment ça s'est formé, on va vite se rendre compte qu'en fait, ça s'est construit à un endroit où on n'avait pas de marge, que s'il n'y a pas une intention de notre part à être touché, et à faire chier le monde avec notre colère ou notre inquiétude, et que n'importe qui aurait vécu la même séquence de faits aurait les mêmes émotions. On décide pas de nos émotions. Si je vous demande ce que vous allez ressentir aujourd'hui ou ce que vous allez penser, vous pouvez pas me le dire, donc on peut pas vous en vouloir de ça. Et pourtant, nous, on se juge beaucoup de ce qu'on vit. Et déjà, rien que ça, si on arrive avec « bah oui, j'ai pas envie, il y a peut-être des raisons à ça, bah oui, je suis angoissé, il y a peut-être des raisons à ça, oui, il est possible que je perde mes moyens, il y a peut-être des raisons à ça », c'est-à-dire, je me mets de mon côté, quoi. Je sais pas comment dire ça, je me prends par la main, et plutôt que de me juger, je vais être mon allié, un grand frère sympa, un parent généreux, et du coup, je vais partir avec « je suis ok pour que ce soit là », et à partir du moment où je suis ok pour que ce soit là, je peux faire en fonction. Je vais aménager. J'ai des plans B. Si à un moment c'est difficile, je vais m'autoriser à aller dire que je vais aller acheter le pain parce que ça va me permettre de passer 10 minutes dans ma voiture, à respirer, etc., etc. Donc, je crois que la première chose, c'est ça. C'est se prendre un peu avec plus de douceur et de gentillesse pour nous, avec ce qu'on y vit, et s'accompagner comme si on était de notre côté, quoi. Et la deuxième, c'est que c'est comme ça que le processus de changement. Le processus de changement, il vient du fait que justement nos schémas issus de l'enfance, ils vont se réinviter. Il va y avoir des émotions qui vont arriver avec.
Mmh.
Et que si on accueille cette émotion avec un peu de tendresse pour nous, on la traverse, à ce moment-là, on gagne de la marge de manœuvre.
Okay,
je suis triste de ça, je vis ma tristesse, et maintenant je fais quoi? Et donc, peut-être que si j'accueille cette émotion, que je la laisse être et que je l'accompagne avec un peu de chaleur, je vais trouver des options pour réagir un poil différemment que l'année dernière. Tenter autre chose. Et du coup, gagner en liberté, modifier mon schéma.
La question, c'est, est-ce qu'on peut sortir de ces rôles? Est-ce qu'on peut transformer Noël plutôt que de le subir pour certaines personnes? Ou alors, est-ce qu'on peut juste faire évoluer, progresser, changer et transformer Noël? La bonne nouvelle, c'est déjà que prendre conscience, c'est déjà commencer à se libérer. Sortir d'un rôle familial, ça veut pas dire renier sa famille. Ça veut surtout dire cesser de se sacrifier pour maintenir une illusion d'harmonie. La première étape, c'est l'observation. Qu'est-ce qui se répète chaque année? Quelle place est-ce que je prends automatiquement? Qu'est-ce que l'on attend inconsciemment de moi à Noël? Ensuite vient le moment le plus délicat, poser des limites. Cela peut vouloir dire refuser certaines discussions, partir plus tôt, changer la forme du repas, ne pas être présent cette année, ou créer son propre rituel ailleurs et autrement. Recréer son Noël, c'est pas être égoïste. C'est parfois un acte vraiment de survie psychique, et pour certaines personnes, le plus grand soin, c'est de ne plus se forcer. Pour d'autres, c'est de oser dire ce qui n'a jamais été dit. Et pour d'autres encore, c'est de faire famille autrement. Amis, proches choisis ou alors solitude assumée. Parce que Noël, ça peut vraiment devenir un espace de réparation. Ou au moins un espace de non-violence intérieure. Avant de conclure cet épisode, je vous laisse écouter tous les conseils de nos professionnels, psychologues et psychogénéalogistes, pour affronter, vivre, traverser ou surtout profiter de Noël de la meilleure des manières.
Oui, Noël peut être un moment de reconstruction dans la mesure où on s'accompagne justement avec cette chaleur-là sur notre vécu. Si on prend le parti de s'accompagner tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait être, à ce moment-là, il peut s'y jouer des choses en laissant émerger les émotions qu'on vit et en tentant des scénarios un peu différents.
Ok.
Je crois que c'est... En fait, c'est toutes les retours de nos schémas sont des occasions de changement. La plupart du temps, on les choque pas parce que les schémas sont tellement automatiques et tellement puissants qu'on a pris le train. Mais de temps en temps, on peut se rendre compte qu'on a pris le train depuis 3 stations et se dire, OK, je suis dans le train. Est-ce qu'il y a moyen de dériver l'histoire? Peut-être pas. Donc, je pense que le critère le plus important, c'est le droit de pas y arriver. Parce que les systèmes familiaux, comme les systèmes psychologiques, sont d'une inertie folle. Donc, je sais que si je vais gagner en liberté, ça sera centimètre par centimètre.
Okay.
En fin d'année, il y a un rituel qu'on peut faire.
Oui.
Qui est, on prend une page blanche, deux pages, d'accord? Sur la première page, on va mettre toutes les blessures, tout ce qui a été douloureux dans l'année 2025. On va les répertorier, d'accord? Ensuite, sur l'autre feuille, on va mettre tout ce qu'on a fait de bien.
Oui.
Tout ce qu'on a pu réussir. D'accord? Et puis, on va peut-être prendre une troisième feuille. Et sur la troisième feuille, on va mettre ses vœux avec, à partir déjà de tout ce qu'on a réussi, ce vers quoi on veut tendre. D'accord? Et puis, de manière sacrée, la feuille blanche sur laquelle on avait écrit tout ce qui a été douloureux dans l'année, on va faire comme un petit rituel en toute conscience. Après, chacun le fait avec sa sensibilité. Si on est religieux, on peut appeler Marie, on peut appeler Christ, peu importe. Chacun va le faire à sa manière. Et pour ceux qui ne le sont pas, il faut appeler son âme, parce que la plus belle chose que nous ayons, c'est notre âme. C'est notre mental qui nous ramène toujours dans des ornières, alors que l'âme ne veut que le meilleur pour nous.
Oui,
donc, on va demander à notre âme de décider de libérer cette mémoire de tout ce qui a pu être douloureux. Et on prend une allumette et on brûle, on voit la feuille marquée de tout ce qui a été toxique et douloureux. On laisse brûler la feuille. D'accord? Et l'autre feuille, on la garde au contraire à vue. On peut la mettre sur son frigidaire, on peut la mettre sur son ordinateur, pour que le cerveau, lui, parte sur une voie positive.
Oui.
Et encore mieux, de mettre aussi ses désirs pour 2026. Mais je vais faire un petit bémol. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de mettre ce que l'on veut, il faut aussi conscientiser ce qui n'allait pas. Et donc, c'est de remettre les deux ensemble.
Oui.
Merci la vie, et ça, c'est une formule importante. Merci la vie de me donner ceci, cela, en fonction de ce qui va être dit. Bien que je sache que ça a été difficile pour ceci ou pour cela. C'est le bien que qui change tout.
Pour conclure, Noël nous met face à quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas seulement des individus, nous sommes aussi des héritiers d'histoire, de silence, de rôles, de blessures, mais aussi de ressources. Notre vie, notre histoire, porte celle de nos ancêtres, celle de nos familles. La psychogénéalogie et l'épigénétique ne sont pas des fatalités. Elles ne disent pas « tu es condamné », elles disent « voilà ce que tu portes, maintenant, qu'en fais-tu ?» Comprendre que certaines émotions ne nous appartiennent pas entièrement, c'est déjà desserrer l'étau de la culpabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ses responsabilités. Si Noël est difficile pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes faible, ingrat ou incapable d'aimer. C'est peut-être parce qu'en fait vous êtes lucide, ou parce que vous êtes le maillon qui tente, consciemment ou non, de transformer l'histoire. Et si cette année, Noël n'était pas parfait, mais plus juste, plus respectueux de vos limites, plus fidèle à ce que vous êtes devenu, plus doux avec votre système nerveux. Et pour finir, j'aimerais nous poser une petite question. Et si cette idée de mémoire transmise ne nous appartenait pas qu'à l'Occident? Eh oui, je suis sûre que vous voyez où je veux en venir. Dans la tradition hindouiste, on parle de samskara, des empreintes laissées par les expériences passées, individuelles ou familiales, qui façonnent nos comportements, nos peurs, nos élans, et parfois sans que nous en ayons conscience. Ces mémoires ne sont pas vues comme des fardeaux, mais comme des traces à reconnaître pour s'en libérer. Quand je pense ancêtres, je pense indiens d'Amérique. Me demandez pas pourquoi, mais c'est sûrement parce que j'adorais Pocahontas. Et on le sait, dans Pocahontas, les ancêtres, ils sont au centre du film. Chez de nombreuses traditions amérindiennes, on considère que l'individu est un maillon d'une lignée vivante, qu'il est responsable à la fois de ses ancêtres et des générations à venir. Les blessures non reconnues ne disparaissent pas, elles circulent jusqu'à être vues, nommées et apaisées. La guérison n'est jamais seulement personnelle, elle est collective. Moi je trouve ça hyper intéressant, hyper juste, hyper responsabilisant et surtout apaisant quoi, de se dire qu'on règle les problèmes ensemble, de façon collective. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à travers ces cultures, une même idée traverse le temps. Ce que nous portons ne nous appartient pas entièrement, mais nous avons le pouvoir de transformer ce qui nous a été transmis. Et si Noël, au lieu d'être seulement une répétition, devenait une occasion de conscience, de réparation et peut-être de transmission différente. Ici Lisa pour la chronique Être bien sur Radio Girafe. Merci pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode spécial Noël vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous allez retrouver très prochainement l'interview complète de Dominique Jacob. Comme ça, vous pourrez vraiment approfondir sur la psychogénéalogie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Surtout en ces périodes de fin d'année froides et parfois un peu moroses. À bientôt et surtout joyeux Noël. On se retrouve l'année prochaine pour continuer notre quête. Bye bye.